Radio Kapi. Oh, Kapi. Lievin Bunga pour le journal.
Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord les titres, les sites de déplacés doivent être totalement exempts des groupes armés et d'armes. Propos de Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, répondait ainsi vendredi à Chomia aux allégations sur la présence d'hommes armés dans les camps de déplacés en Ituri. La Croix-Rouge RDC au secours de plus de 900 sinistrés des inondations de plusieurs villages de Moba dans le Tanganyika. Il s'agit évidemment des kits pour la construction des abris, détails dans ce journal. Journée internationale de la paix, c'est aujourd'hui 21 septembre avec ce message d'alerte internationale. Le conflit est inhérent à la vie et à l'existence humaine, mais la manière dont on peut résoudre ce conflit qui compte Narcisse Ziyindoula, proche de cette ONG, est notre invité et va nous décortiquer le contenu de cette assertion. Encore une fois, bonjour. Les sites de déplacés doivent être totalement exempts des groupes armés et d'armes. C'est l'appel lancé par Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO, en réponse aux allégations sur la présence d'hommes armés dans les camps des déplacés en Ituri. Elle l'a dit vendredi depuis la localité de Chomia, située à 60 km de Bounia, où elle se trouvait en visite avec Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de paix. Plus de détails avec Jean-Claude.
À Chomia, les responsables militaires ont informé Jean-Pierre Lacroix et Bintou Keïta que, lors des opérations de traque des hommes armés, certains assaillants se replieraient dans les camps de déplacés avec leurs armes. D'après eux, certains assaillants se cacheraient dans ces sites, compliquant ainsi les efforts pour sécuriser la population, notamment les déplacés. En réponse, Bintou Keïta a réaffirmé que les sites de déplacés doivent demeurer intouchables par des personnes armées.
Parce qu'il y a deux choses que nous voyons. Il y a la présence des armes dans les sites et il y a présence des armes à proximité des sites. Dans les deux cas, ce n'est pas quelque chose qui facilite la paix parce qu'on peut le prendre à l'intérieur et on va les chercher à l'extérieur pour la résurgence finalement de la violence.
Jean-Pierre Lacroix a également insisté sur l'importance de respecter le caractère humanitaire des camps de déplacés.
C'est aussi à la population, aux civils dans les camps, de veiller à ce que les camps ne soient pas détournés de leurs fonctions. C'est une responsabilité de tous, de vous, de nos collègues, la MONUSCO, évidemment, de nos autorités provinciales, FARDC, la police aussi.
Rappelons que depuis le début de la semaine, des sites de déplacés ont été attaqués par des hommes armés dans les territoires de Djougou. Bounia, Jean-Claude, Loki, Dile, Radio Okapi.
Vous avez bien noté que c'était un reportage de Jean-Claude Loki Dile. Pour être complet sur ce dossier, sachez qu'au terme de sa visite en RDC, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de paix a fait le point sur la situation du désengagement de la MONUSCO de la RDC. Lors de sa conférence de presse, Jean-Pierre Lacroix a tenu à préciser qu'il n'est pas de l'intention des autorités congolaises de voir la MONUSCO quitté au 31 décembre 2024, l'objectif étant de maintenir le désengagement, mais l'accent est plus mis maintenant sur ce qui reste à faire en commun. On écoute Jean-Pierre Lacroix dans ce propos sélectionné par Jacques-Yves Molima.
Le plan de désengagement qui était agréé l'année dernière avec les autorités congolaises, qu'on précisait une seule étape en tant que première étape, c'est le Sud Kivu, d'où nous sommes retirés maintenant. Il nous appartient avec les autorités congolaises de tirer les leçons de ce retrait et puis de regarder avec les autorités congolaises quelles pourraient être les étapes ultérieures, sachant qu'il doit sans doute se faire dans les prochaines étapes dans le cadre d'une approche différenciée, c'est-à-dire pas nécessairement une province, puis une autre province, puis une troisième province. Enfin, j'insiste, l'accent a été mis surtout par les autorités congolaises sur le travail commun à faire, les attentes à l'égard de la MONUSCO. Je rappelle aussi que nous avons de nouvelles tâches comme le soutien à la SAMIDRC ou encore le soutien au mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Je voudrais enfin préciser qu'il n'a jamais été question que la MONUSCO parte au 31 décembre 2024. Elle ne partira pas. En tout cas, ça n'est pas l'intention des autorités du tout. tout leur intention. C'est bien sûr que l'objectif du désengagement, nous sommes d'ailleurs d'accord, doit rester, parce que le but, c'est précisément de créer les conditions pour que la MONUSCO puisse partir, conditions de retour à la stabilité et à la paix. Mais l'accent est beaucoup sur le travail qui reste à faire en commun.
Autre sujet, 18 à 30 mois de servitude pénale, verdict rendu vendredi soir à l'issue du procès des étudiants de l'Institut du bâtiment et travaux publics Boutembo. La peine la plus lourde est infligée à 7 étudiants reconnus coupables de coups et blessures volontaires simples. Tous les 11 prévenus ont également été condamnés solidairement au paiement des dommages et intérêts de 50 000 $ américains, et c'est la satisfaction du côté de la société civile locale. Je vous signale qu'il est reproché à ses étudiants des faits commis lors d'une manifestation contre le comité de gestion de leur institution universitaire. Sadiki Aboubakar nous en dit plus.
Dans son jugement rendu vendredi soir, le tribunal de grande instance de Boutembo condamne 3 étudiants à la peine de 18 mois de prison ferme. Il s'agit des étudiants Katembo Kioma Justin, Malonga Basosila Rodrigo et Kisanga Bilambalamba Delphin. Ceux-ci ont été reconnus coupables de l'infraction de destruction méchante de la maison du directeur général de l'IBTP et celle de l'administrateur de Bidjé. La peine la plus lourde, 30 mois de prison, est infligée à 7 étudiants reconnus coupables de coups et blessures volontaires simples sur mineurs et de destruction méchante. Il s'agit des étudiants Abiandro Aenda Nikevin, Lokako Adjeninga Eli, Ifonde Falanga Enaï, Mumbere Kaenga Julde, Mugisha Kaengo, Biamungu Chibalonza et Kamate Nelson Pacifique. Le secrétaire général académique de l'IBTP, Kakule Kayana Julien, a, lui, été condamné à 12 mois de servitude pénale, dont 6 mois avec sursis. La défense promet d'interjeter appel. John Kameta, un acteur de la société civile de Boutembo, exprime sa satisfaction face à ce jugement qui, selon lui, est une sanction exemplaire qui pourra mettre fin à la barbarie des étudiants et les amener à une prise de conscience et à la responsabilité individuelle. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Inquiétude du collectif des organisations de défense des droits humains dans la province de la Tchopo. Il se dit préoccupé et sidéré par l'intensification des violences policières graves à Kisangani et ses environs. Dans une déclaration publiée jeudi à Kisangani, cette structure citoyenne précise que ces violences durent depuis plusieurs mois. Il ne se passe plus un jour sans qu'il ne soit rapporté un cas de violence policière, sans compter l'accroissement du banditisme armé. D'autres précisions avec Jacques Moukonkole.
Selon cette déclaration du collectif des ONG de défense des droits humains, le dernier cas en date remonte au week-end dernier. Ce jour-là, un avocat du barreau de la Tchopo, de retour à son domicile en compagnie de son épouse, a été copieusement passé à tabac par un groupe de policiers en patrouille. Pour ne leur avoir remis une somme de 100 000 francs congolais lui exigée, il a reçu des coups de poing et de pied et traîné à terre avant de se faire arracher ses sandales. Après avoir humilié Maître Smith Toyiru Djuma par des injures, ils l'ont laissé partir. Les ONGDH fustigent ces atteintes graves aux droits fondamentaux et à la dignité de la personne contre les honnêtes et paisibles citoyens. Pendant ce temps, les criminels bénéficient de l'impunité. Au lieu de s'en prendre à la population civile, la police devrait plutôt combattre la criminalité qui sévit gravement dans la ville de Kisangani, stipule ce communiqué. Au regard de cet état des choses, les activistes des droits de l'homme formulent un certain nombre de recommandations, notamment le rappel à Kinshasa par le ministre de l'Intérieur et Sécurité de l'unité du GMI et la remplacer par une nouvelle beaucoup plus respectueuse de l'éthique du fonctionnaire et des droits humains. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
La Croix-Rouge RDC vole au secours de plus de 900 sinistrés des inondations de plusieurs villages de Moba dans le Tanganyika. Il s'agit évidemment des kits pour la construction des abris. Le lancement officiel de la distribution de cette assistance humanitaire a eu lieu jeudi dernier sur le site de Kizungi à Mobaport. Le point avec Paulin Munanga.
Les sinistrés des inondations des villages Kinzungi, Kanzombwe, Kapakwe et Ntonto dans le territoire de Moba bénéficient des kits pour la construction des abris. Il s'agit des bâches, des planches et des clous pour fixer les bâches ainsi que des moustiquaires. En plus, chaque sinistré va bénéficier du cash. D'après le chef de division chargé des urgences à la Croix-Rouge dans la province du Tanganyika, il y a des critères préétablis pour bénéficier de cette assistance humanitaire. Christophe Kafindou évoque notamment les ménages où il y a les femmes qui sont comme chef de ménage. Il y a aussi les ménages où la femme est enceinte ou encore les ménages où il y a des enfants de moins de 5 ans, c'est-à-dire il y a une femme allaitante. Les ménages où il y a des personnes vivant avec handicap et le ménage qui a perdu complètement sa maison. La Croix-Rouge signale aussi que plus de 1000 sinistrés des inondations dans la ville de Kalemie ont été assistés. Kalemie, Pole Munanga, Radio Okapi.
Suite du naufrage de la baleinière survenu lundi sur la rivière Kwango au village Pont Kwango, le bilan définitif fait état de 12 morts, 79 rescapés et une quarantaine de disparus. Au moins 6 blessés graves ont été transférés ici à Kinshasa. Le gouvernement provincial du Kwango a par ailleurs apporté un appui en médicaments et des moyens pour la survie de ces blessés. C'est le ministre provincial de la Santé du Kwango, Dr Apollinaire Yumba, qui livre cette information ce samedi après avoir été sur les lieux du drame. Il est au micro de Irène Mboma Luzolo.
Nous avons été au pont Kwango pour assister les accidentés. Nous avons fait l'évaluation. Le bilan fait état de 17 blessés, dont 6 blessés graves qui sont transférés immédiatement à Kinshasa, parmi lesquels le chauffeur s'en est sorti avec une amputation du membre supérieur gauche et les autres malades sont pris en charge sur place. Le gouvernement provincial a assisté ces malades moyennant un apport en termes de médicaments, mais aussi les nécessaires pour leur survie. Nous avons laissé sur place, entre les mains du médecin de l'hôpital du Pont Kwango, 11 malades qui doivent continuer à bénéficier des soins. Et nous avons ramené à l'hôpital général de Kenge un enfant de plus ou moins 7 ans qui a une fracture du fémur droit, qui doit bénéficier des soins appropriés aussi ici sur place.
Célébration du 25e anniversaire de la Journée internationale de la paix, c'est ce samedi 21 septembre au Maniema. Le bureau diocésain Justice et Paix de la Caritas Développement Kindu prêche la paix à toute la communauté. Après une marche pacifique, un mémo a été lu et déposé au gouvernorat de province où ses membres demandent que le monde cultive la paix. On écoute Maître Moucha Bassalé Baudouin, coordonnateur du bureau diocésain Justice et Paix à la Caritas Développement Kindu. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Nous voulons que la paix règne en République démocratique du Congo. Aussi la paix règne dans la province du Maniema sur sa partie sud. Et nous voulons que la paix règne entre les institutions provinciales au Maniema. Mais nous ne voulons pas une complicité négative pour stopper le développement de la province du Maniema. Nous voulons qu'ensemble la paix règne en République démocratique du Congo parce que c'est assez. Et c'est un message dont nombreux de nos compatriotes ne semblent pas comprendre ce qu'est la paix. Parce que parler à l'homme qui est à Rutshuru, qui est à Masisi, qui est à Beni, à Butembo, à Rubero, à Kwamutu, à Salamabila et à Mingana sur la paix, il semble que c'est l'utopie. Mais nous pensons avec les efforts du gouvernement central, mais aussi avec l'accompagnement du peuple congolais, nous pouvons arriver à cette paix-là. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, nous voulons la paix en République démocratique du Congo. De la même manière que l'esprit de guerre naît dans les esprits des individus, et c'est de la même manière que nous voulons mettre dans l'esprit des individus l'idée de la paix pour que nous puissions cultiver la paix pour le mieux vivre ensemble.
Sport, Coupe Interclub de la CAF, les équipes du Tout-Puissant Mazembe et de Maniema Union jouent leur avenir en Ligue de Champions ce samedi. Les Corbeaux seront face aux Zambiens de Red Arrows qu'ils avaient battus sur le score de 2-0 à Ndola en Zambie, tandis que Maniema Union sera reçu par Petro Atlético d'Angola. Lors de la manche aller, les Congolais avaient dominé leur adversaire du jour. Le match de Lubumbashi commence à 15h heure locale et celui de l'Angola à 17h. Voyons tout cela avec Jean Gandou.
Si le tout-puissant Mazembe part avec les faveurs de pronostic pour le match de ce samedi face à Red Arrows de la Zambie, considérant sa victoire du match aller de 2-0, la prudence doit cependant être de mise. Lamine Diaye, son coach, l'a fait savoir en conférence de presse d'avant-match. Red Arrows est un adversaire qu'il faut prendre très au sérieux, a-t-il martelé. Pour les Corbeaux, une victoire, un nul ou une défaite avec moins de 2 buts d'écart suffirait pour qu'ils rejoignent le prochain tour, soit la phase de groupe. Quant à l'équipe de Maniema Union, qui sera reçu ce même samedi à Luanda en Angola par la formation de Petro Atlético. Elle est appelée à tout faire pour arracher la qualification et s'est hissée aussi en phase de groupe, considérée par les analystes sportifs de Cour des Grands. Ce qui sera une grande première pour cette équipe qui monte et s'affirme et pour l'heure, elle est comptée parmi les meilleurs du pays. Conscient de l'enjeu du match, le coach de Maniema Union, Papi Kimoto, a indiqué qu'il veut écrire une nouvelle page avec cette équipe qui est à un pas de son bonheur. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Un coup de téléphone aux échanges plutôt tendus. La conversation entre le président Macron et le premier ministre israélien Netanyahou portait sur l'escalade de la situation au Liban. Une tension diplomatique qui intervient quelques jours après le vote de la France en faveur d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU appelant à des sanctions et un embargo sur les ventes d'armes à Israël.
L'invité.
Le conflit est inhérent à la vie et à l'existence humaine, mais c'est la manière dont on peut résoudre ce conflit qui compte. C'est ce que pense Albert Alerte Internationale à l'occasion de la Journée internationale de la paix ce 21 septembre. Narcisse Zindoula, coordonnateur du projet Mupaka Chambaletou de Alerte Internationale, notre invité dans cette édition. Il revient sur les efforts déployés par Alerte Internationale pour construire la paix en renforçant la cohésion sociale entre les communautés. Il s'entretient avec Rachel Kiesembango.
Narcisse Zindoula, bonjour.
Bonjour Rachel Kiesembango.
Comment s'inspirer de cette thématique de la paix pour construire la paix dans les communautés pour Alerte Internationale qui travaille dans la construction de la paix?
La Journée internationale de la paix, pour nous, c'est une occasion, une opportunité de célébrer un peu tous les efforts que Alerte internationale et ses partenaires continuent à mettre en jeu pour construire la paix, pour renforcer la cohésion sociale entre les communautés, les vivre ensemble, étant donné que cela a été prouvé que la paix reste un besoin pour tout le monde. La paix, c'est tout ce qu'on peut espérer avant tout. C'est ce qui permet la prospérité, c'est ce qui permet le développement économique, c'est ce qui permet même de travailler sur les questions de la santé. Et c'est comme ça que pour nous, cette journée spéciale, nous célébrons quand même tous les petits succès que nous avons pu atteindre à travers les différentes interventions de nos projets et nos programmes.
Concrètement, que faites-vous avec les communautés pour contribuer à la paix à travers vos activités sur terrain, en RDC, particulièrement ici, dans la partie Est?
Alerte internationale, en tant qu'une ONG de peace building, d'abord, dans sa vision, voudrait que les personnes et les sociétés peuvent résoudre les conflits sans recourir à la violence, mais aussi en travaillant ensemble pour construire une paix durable et inclusive. Et là, Alerte, dans sa mission, elle vise à briser les cycles de la violence et de construire une paix durable, notamment en travaillant avec les personnes qui sont directement touchées par les conflits violents pour trouver des solutions durables. Pour nous, on ne rêve pas un monde où les conflits n'existent pas, parce que les conflits sont inhérents à la vie et à l'existence humaine, mais c'est la manière dont on peut résoudre ces conflits qui compte. Et donc, pour nous, on renforce les communautés pour qu'elles peuvent être résilientes et que lorsqu'il y a des conflits qui peuvent survenir, elles peuvent trouver des solutions pacifiques à ces conflits. On travaille aussi sur le renforcement des leaderships. Vous savez, les leaders peuvent conduire l'opinion, peuvent influencer les membres des communautés. Alors, à ce moment-là, on fait le renforcement aussi de ces leaders pour qu'ils puissent être des leaders qui conduisent les gens et leurs communautés dans une voie de paix. Et troisièmement, les plaidoyers, parce qu'on vit dans un environnement où il y a des politiques qui doivent décider, il y a des autorités qui doivent prendre des mesures. Et là, nous faisons le plaidoyer pour les amener à comprendre un peu dans quelle manière est-ce qu'ils peuvent mettre en place des politiques qui promeuvent une culture de paix au sein des communautés et qui favorisent le vivre ensemble.
Quel bilan faites-vous de votre contribution à la paix au Sud Kivu jusque-là?
Et le travail que nous avons fait, premièrement d'abord, c'était d'amener les communautés à s'accepter. À accepter qu'on peut être différent, mais qu'on peut avoir des éléments qui sont communs, nous pouvons avoir des intérêts qui sont communs. Permettre aux communautés de s'accepter mutuellement et de trouver des moyens et des mécanismes qui peuvent permettre à ce que les divergences peuvent trouver des solutions. Et là, c'est à travers différentes plateformes ou différentes structures communautaires qui ont été mises en place, telles que des bazars, telles que des paillotes de paix, telles que des groupes de dialogue, ainsi de suite. Donc, ces mécanismes que nous avons instaurés dans les communautés permettent à ce que quand même, lorsque les conflits surviennent, ces groupes-là peuvent jouer. Nous-mêmes, par exemple, aujourd'hui, on est en train de piloter ce projet Mupaka Chambalet, qui est un projet de commerce transfrontalier exercé entre la RDC, le Rwanda et le Burundi, et où on est en train de promouvoir cette approche business for peace. Comment est-ce que le commerce dans cette région des Grands Lacs peut être au-delà d'être un moyen de renforcer la prospérité et les revenus pour les nations? Ça peut être aussi un moyen de promouvoir la paix dans cette région.
Pour finir, quel est le message de alerte internationale en rapport avec la journée internationale de la paix pour renforcer la cohésion sociale et la cohabitation pacifique?
Le message d'alerte est simple: la paix est possible. Nous ne devons pas penser que la construction de la paix, c'est une affaire des autres. Chacun, là où il est, dans son environnement, avec les gens avec qui il vit, il peut construire la paix. Et ça, c'est premièrement d'abord de croire qu'il a un rôle à jouer, et deuxièmement, de s'ouvrir aux autres, d'accepter les différences. C'est plus facile de dire « je veux la paix », mais quand vous vous rencontrez dans des situations un peu compliquées, c'est là que vous commencez à prendre votre parti, et là, vous n'êtes plus favorable à la paix.
Narcisse Ziyundula, je vous remercie.
Merci madame.
Voilà, c'est la fin de ce journal qui a évidemment tourné autour de la paix en ce jour anniversaire, 21 septembre. Merci à Jacques-Yves Bolima et à Polydor Basunga.